Qu'est-ce que c'est que le désert? Alors on a baptisé désert une période de l'histoire des protestants en rappel de, bien sûr, de l'errance des Hébreux dans le désert après la sortie d'Égypte. Sortie d'Égypte, c'était au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. C'était une période pendant laquelle les protestants n'avaient, officiellement tout au moins, j'y reviendrai, officiellement, pas de lieu de réunion, pas de lieu de culte, pas de mariage ni de baptême, parce que c'était interdit, pas d'état civil, donc, pas de baptême, pas de mariage, donc pas d'état civil, puisque l'état civil à l'époque était tenu par les curés, pas de sépulture, pas de pasteur, officiellement, pas de pasteur, et pas de Bible. Alors, pas de Bible, pour un protestant, c'est terrifiant. Enfin, c'est le cadeau classique à 8, 10, 12 ans. Chaque enfant reçoit sa Bible, il a sa Bible. On en a à la maison toute une palanquée, parce qu'en plus, on est difficile sur les traductions. Alors, les Bibles... Vous en avez déjà vu, mais je vais vous en montrer. Je vais vous montrer du coup, ils sont capables d'aller les parpaillots. Alors, il y en a une qui est facile à manipuler, c'est la Bible à 1,50€. Mais celle-là, elle est moins drôle. Voilà, ça c'est la Bible de Jérusalem. Cadeau de ma mère à ma fille, quand elle a eu 12 ans. C'est assez terrifiant, je vous dis tout de suite, elle ne l'a jamais ouverte, parce que déjà il faut pouvoir porter le truc. Donc, pas de Bible pour des protestants, c'est quelque chose d'effrayant. Alors pour simplifier, donc la période du désert, pour simplifier, elle a duré à peu près un siècle. Entre 1685 et... grosso modo 1789, c'est pas exactement 1789, mais ça fait 100 ans. Hein. En réalité, c'est comme ça qu'on délimite, début et fin, qu'on délimite la période du désert, mais en réalité, ces interdictions étaient déjà de fait, du fait de vexations diverses. C'était officiellement autorisé d'avoir un culte protestant, mais dans la pratique, les soldats débarquaient chaque fois qu'il y avait une assemblée, donc les dates sont assez floues. Et par ailleurs, même après la déclaration des droits de l'homme en 1789, il y a eu pas mal de d'aller-retour. Alors, Alors 1685, c'est une date qui fait toujours pleurer dans les chaumières chez les parpaillots, c'est la révocation de l'édit de Nantes. On a l'impression que quand on parle... L'édit de Fontainebleau, exactement. Quand on parle... Oui, parce que c'était pas une révocation, c'était un édit qui venait annuler ce qui était dans un édit précédent. Alors, à ce moment-là, il y a eu un moment de terreur chez les Huguenots. Il y a eu des abjurations en masse. Hein. Ils se sont dit, bon, je vais me convertir et puis après je vais faire comme je veux, je vais continuer comme avant, mais au moins je serai tranquille, je ne serai pas dérangé. Et puis, une fois passé ce premier moment de terreur, Il y a eu deux phénomènes. D'abord, ils sont aperçus que même en ayant signé quelque part qu'ils étaient devenus catholiques, ça se passait pas si bien que ça. Et puis d'autre part, il y a eu des remords de conscience quand même. Il y a eu dans les familles, il y a eu des protestations, des gens qui ont dit mais on n'a pas à renier notre foi, etc. Donc, du coup, il y en a qui sont restés dans cette situation. Alors, on les appelait les nouveaux convertis, hein, ceux qui avaient abjuré, parce qu'ils étaient tellement bizarres dans leur comportement que on pouvait pas les prendre comme des fraîchement catholiques. Alors, on les baptisait d'un terme un peu bâtard, nouveaux convertis. Alors, Il y a quand même deux types d'attitudes, ou deux ou trois types d'attitudes que ces gens-là ont pu adopter. Elles sont toutes dictées par un mot qui est très emblématique du protestant, c'est le mot « résister ». On va y revenir. « Résister » à l'infinitif, hein, « er ». On va y revenir. C'est un mot qui est très protestant. Donc, trois attitudes possibles. La lutte armée, ou bien la clandestinité. Et puis, c'est pas le tout, mais quand on est arrêté, parce que ça arrivait forcément, quand on est arrêté, une sorte de résistance passive. Alors, on a appelé ça une résistance granitique. C'est dire, faites-moi ce que vous voulez, de toute façon, je ne bougerai pas, je ne changerai pas d'avis. Alors, la lutte armée, ça a été dit à droite, à gauche, abondamment, c'est la principale lutte armée, c'est la guerre des Camisards dans les Cévennes. Alors, on a souvent l'impression que pendant toute la période du désert, il y a eu la guerre des Camisards. En fait, elle a duré à peu près 2 ans, parce qu'ils n'ont pas pu tenir plus longtemps. Et puis c'était dans les Cévennes. C'est toujours plus facile. Ceux ou celles d'entre vous qui sont déjà allés dans les Cévennes, on se rend compte que déjà avec les routes d'aujourd'hui, on a du mal à circuler. Voilà. Alors on imagine ce que ça devait être à l'époque. Enfin, je suis quand même tombé sur une route qui est marquée à l'entrée. Il y a un panneau de la DDE marqué route difficile et dangereuse. Donc à l'époque, ça devait être... On ne devait pas pouvoir passer facilement des cavaliers et des canons. Donc, c'est le truc classique de la résistance dans les zones montagneuses. Alors, la guerre des Camisards, il n'y a pas eu tout le peuple français. Il y a eu au maximum 2 à 3 000 personnes. C'était des paysans qui estimaient, c'est ce qu'ils disaient, qui estimaient qu'ils n'avaient... Enfin, il était préférable pour eux d'obéir à Dieu plutôt que d'obéir aux ordres du roi, mais bon, il était loin le roi, obéir dans la pratique aux évêques et aux intendants locaux. Apparemment, il n'y a pas de motif politique ou économique ou fiscaux, par exemple. Il y a pas mal de révoltes ou de révolutions qui sont déclenchées pour ce genre de motif. On n'a pas envie de payer des impôts ou on en a marre de je sais pas quoi. Mais là, apparemment, c'était vraiment un problème de foi. Alors, ils ont réussi à tenir tête aux armées. Ils ont quand même eu 25 000 hommes sur le dos. À la fin de la guerre, ils ont été réduits non pas parce qu'on les a tous attrapés, mais parce que on pouvait plus les ravitailler, parce que naturellement, quand un village, bon, ça a été fait dans toutes les guerres, malheureusement, toutes les guerres de résistance, quand un village était soupçonné d'abriter ou d'approvisionner des révoltés, il était rasé, etc. Donc petit à petit, ils se sont trouvés à court de tout. Et donc, et puis les chefs ont fini par être pris. Donc la lutte armée, elle a duré grosso modo 2 ans à peu près. L'autre moyen de résister, c'était la clandestinité. Alors d'abord pour les pasteurs, parce que là, bon, David il est tranquille, mais à l'époque, les pasteurs, ils devaient faire attention. Alors, c'était plus des prédicateurs. Que des pasteurs, ils allaient de village en village pour prêcher et puis pour célébrer les mariages et les baptêmes. J'ai dit qu'il n'y avait plus rien de ce type-là. Donc, et certains d'entre eux trimballaient avec eux un registre d'ailleurs, un registre des baptêmes et des mariages, de manière à pouvoir avoir quand même une vague idée de la population réformée.
Quelque part, ces
oui, on trouve dans, alors classique archive départementale, on trouve des registres d'inscriptions protestants de l'époque du désert, l'époque où c'était interdit. Alors Le pasteur qui était pris, c'était pas drôle, hein. C'était la pendaison ou le bûcher. Donc voilà. Alors, pour ne pas se faire trop voir, les ustensiles, il n'y a pas grand chose comme ustensile de culte chez les protestants, mais il y a une coupe. Et puis il y a surtout la chair, je vous en montrerai tout à l'heure. Voilà, la chair démontable. Il y a une belle photo que je vous passerai. Et ça se trimballait en plusieurs pièces, comme ça on pouvait dire bah, c'est des planches. Et quand on va dans un musée protestant comme au Bois Tiffré et qu'on regarde les chaires démontables, ça fait, on se demande pourquoi ils montaient là-dessus, parce que en fait ils seraient montés sur un tabouret, ça aurait fait pareil. Bon, les protestants, ils tiennent bien, ils tiennent à leur chair. C'est comme ça. Alors donc ça c'est pour les pasteurs, la clandestinité. La clandestinité pour les fidèles, bah, c'est essentiellement cacher les pasteurs et les gens qui étaient poursuivis, les nourrir, les clandestins, et puis de loin en loin, quand ils pouvaient, assister aux assemblées. Alors justement, alors les assemblées, ça se tenait dans, bah, là où on pouvait, là où ça se voyait le moins, dans des grottes, dans des fonds de vallée, dans des granges un peu cachées, dans des forêts. Il y avait, dans ces assemblées, se déroulait justement baptême, mariage et prédication. Alors la clandestinité de cette époque-là, elle, pour l'évoquer, il faut tenir compte de deux éléments qui sont très importants. D'abord, le phénomène du prophétisme. Il y avait beaucoup de prophètes et de prophétesses. On ne va pas dire du mal des gens du passé, mais ils se disaient habités. Alors, moi, je comptais dire allumés, mais ma femme m'a dit, non, ne dis pas allumés, tu vas dire habités. Alors, ils étaient habités. Il y avait même des enfants qui étaient prophètes. Et alors, ils entraient en transe, et puis, quand ils revenaient de leur transe, ils disaient qu'ils avaient dialogué avec Dieu, ou qu'en tout cas, Dieu leur avait parlé. Et ils annonçaient ce que Dieu, les directives de Dieu pour la suite des opérations. Dans la pratique, c'était quand même beaucoup des incitations à la lutte armée. Ça s'est traduit par quelques petits massacres ici ou là, des assassinats de curés, des églises brûlées, enfin bon, c'est des incitations. En tout cas, dans les Cévennes, on trouve beaucoup de traces de ces prophètes. On dit « Ah, c'était un prophète, ouais, d'accord ». Et puis l'autre élément emblématique, ça fait un peu bizarre, mais il faut le prendre au sérieux quand même, c'est le châtaignier. Alors le châtaignier, il servait à plein de choses. D'abord, les forêts de châtaigniers, dans les forêts de châtaigniers, on pouvait s'y cacher. Il y en a beaucoup moins dans les Cévennes aujourd'hui qu'à cette époque-là, mais il y en a encore pas mal. On se cachait dans les forêts, on y célébrait des cultes, etc. Mais il servait aussi à... Alors on a même on conserve quelque part, j'ai vu une photo, mais je ne l'ai pas vu en vrai, un tronc de châtaignier creux, complètement bouffé au mythe, au milieu, et dans lequel des gens pouvaient se cacher à plusieurs. Et puis il servait de nourriture aussi. On mangeait la farine de châtaigne, la purée de châtaigne. Je ne sais plus comment ça s'appelle, la badjana, une soupe de châtaigne. En fait, ils pouvaient se nourrir en récoltant des châtaignes, à la saison des châtaignes, évidemment. Alors, là aussi, bon, on a dit que les pasteurs, c'était pas marrant quand ils étaient arrêtés. Les fidèles, c'était pas formidable non plus. Ils étaient punis d'amendes. Ça allait jusqu'à la confiscation de leurs biens, ou alors des amendes sous la forme de, par exemple, il y a quelqu'un à brûler une église, bah, tout le village va aller réparer l'église à vos frais. Donc des amendes de ce genre-là, mais qui pouvaient aussi aller jusqu'à la confiscation totale des biens au profit des communautés religieuses qui avaient été lésées. L'emprisonnement, alors c'était beaucoup les femmes, parce que les hommes, on les envoyait aux galères. C'était pas uniquement des paysans qui partaient aux galères, il y a aussi des nobles qui ont refusé d'abjurer et qui se sont retrouvés à ramer avec les autres. Et les enfants, on les séparés de leurs parents et on les envoyait au couvent pour recevoir une éducation catholique convenable. Alors sans compter toutes les peines corporelles du genre pendaison, bûcher, la roue. On allait même jusqu'à... Moi ça me fait rire ces trucs-là, parce que on allait même jusqu'à déterrer les morts qui avaient été enterrés, parce que c'était interdit d'enterrer comme ça, sans le secours des sacrements, enfin de l'extrême onction, en tout cas au minimum la visite du curé. Il est arrivé qu'on déterre les morts et qu'on aille les exposer sur une clé pour ensuite leur faire subir, les faire bénéficier d'une extrême onction post-mortem, parce qu'on ne sait jamais. Donc naturellement, sur une clé, alors on appelait ça le supplice de la clé, parce qu'on les exposait devant tout le monde. Alors il faut dire que ces persécutions n'étaient pas totalement du goût des populations catholiques. Elles venaient d'en haut, hein, ces instructions de persécution. Par exemple, les tribunaux ecclésiastiques condamnaient quelqu'un, enfin déclaraient quelqu'un hérétique, et ensuite ils le refilaient au pouvoir civil, aux tribunaux civils, parce que il ne tue pas, c'est pas bien de tuer son prochain, donc il le refilait au tribunal civil, mais qui avait intérêt quand même avec un hérétique, s'ils ne voulaient pas se retrouver eux-mêmes convaincus d'hérésie, ils avaient intérêt à le condamner. Mais les populations catholiques n'étaient pas trop emballées par ça, les officiels catholiques, il y en avait pas mal qui désobéissaient, et par exemple on a vu pas mal de cas d'opérations militaires qui étaient plutôt molles. Hein. Alors il y avait deux motivations à cette mollesse, mais on va y revenir. En tout cas, en 1697, alors il y a eu une guerre, les protestants ont été peinards pendant 2-3 ans, parce que le roi faisait la guerre à tout le monde, à la Hollande, l'Angleterre, l'Espagne, et donc les armées étaient occupées ailleurs. Mais en 1697, il y a une enquête qui a été demandée auprès des évêques pour savoir si ça servait à quelque chose d'être aussi sévère. Et à une très large majorité, ils ont déclaré que ça n'avait provoqué strictement aucun enthousiasme pour les conversions. Donc ils ont demandé qu'on ne forçât plus les protestants à venir à la messe, parce que c'était obligatoire. Mais il se met tellement de désordre qu'il trouvait que c'était mieux de ne plus les obliger. Et puis de supprimer certains supplices, comme par exemple le supplice de la clé. Bon, on cite aussi le cas du gouverneur de Languedoc. C-L-A-I-E. Oui, on les posait sur une clé. Oui, pas la clé. Bon, le gouverneur de Languedoc, qui était prince du sang, qui était prince de Beauvau, qui a visité la tour de Constance en 1767, donc vraiment dans les tout débuts, qui a été horrifié par le sort qu'on faisait aux femmes qui étaient enfermées là-dedans, et qui les a fait libérer sur sa bonne mine. Il a eu quelques ennuis, mais il a tenu bon, et donc elles ont été libérées. Alors pour boucler avec cet historique très bref, on n'est pas dans... C'est pas le propos aujourd'hui de faire une histoire du protestantisme. C'est un autre sujet, plus important d'ailleurs. Mais grosso modo, quelques dates comme ça pour fixer les idées. L'édit de tolérance, baptisé Édit de Nantes, date de 1598. L'édit de Fontainebleau, donc, qui a été sa révocation, date de 1685. Et puis, on trouve aussi une déclaration royale de Louis XV, en 1698, qui ordonnait l'arrêt des contraintes. Je parlais tout à l'heure de supprimer certains supplices, arrêter d'obliger les protestants à assister à la messe, etc. Donc,
1714, oui.
90, exact, t'as raison. 1715, oui, tout à fait. Donc, Louis XIV, tiens, j'ai marqué Louis XV, c'est fou ça. Donc, c'est l'arrêt des contraintes. Ça pas, il ne s'est pas déjugé, mais enfin, bon, il y a eu un léger adoucissement.
Les contraintes,
ben justement, c'était obliger les protestants à aller à assister à la messe, obliger les enfants à recevoir une éducation catholique dans un couvent, etc. Enfin bon, et puis certains supplices, comme celui de la clef, déterrer les morts, on a trouvé que c'était pas le. Ils avaient un peu peur aussi. Il faut bien dire que on est dans une époque très très mystique, très, très fervente, très religieuse, très croyante. Les soldats qui allaient en opération contre les camisards, par exemple, on leur disait ben, « Dieu le veut ». Bon, voilà, le pape le veut, etc. Alors, ils y allaient. Mais en face d'eux, qu'est-ce qu'ils trouvaient? Ils trouvaient des gens qui, devant une troupe armée, s'agenouillaient et se mettaient à chanter des cantiques. Ils n'avaient pas peur, mais enfin bon, quand même, mine de rien, ça veut dire est-ce qu'on risque pas de se fâcher avec Dieu, hein? Donc, il y avait un peu de réticence. On dit, mais est-ce que tout ça, est-ce que Dieu veut vraiment tout ça, ou est-ce que c'est les autorités religieuses pour des motifs qui sont pas forcément très religieux? Donc, les choses se sont adouci de part et d'autre au fur et à mesure que, bah, au siècle des Lumières, hein, au fur et à mesure que on mettait en question, on se posait des questions sur la foi, sur les pratiques religieuses. Donc, dans ma petite liste de dates, je rajouterai la Déclaration des droits de l'homme, hein, 1789. Il y a la Constitution de l'an 3, en 1795, qui donnait le droit aux protestants de célébrer des cultes et de célébrer des mariages. Ensuite il y a eu Napoléon. Alors Napoléon était très catholique. Enfin, il n'était pas catholique, mais il s'appuyait énormément sur l'Église catholique parce que le ciment de la société, là, tout ça. Enfin bon, mais quand même. Il ne voulait pas avoir trop d'ennuis avec des gens qui, quelquefois, avaient une certaine influence, aussi bien sur le plan politique que sur le plan économique. Donc il y a une loi impériale qui date de 1802 qui a donné aussi un peu de plus de facilité aux protestants. Et puis, bien sûr, la loi de séparation de 1905. Qui a été très bien accueilli par les protestants et très mal par les catholiques, pour la même raison. Donc ça, c'est le petite chronologie par paillotte. Donc l'histoire du désert peut se résumer comme ça, c'est un résumé. Alors aujourd'hui... Aujourd'hui, le désert, on n'est plus persécuté, mais se tient tous les ans l'Assemblée du désert. Alors, qu'est-ce que c'est l'Assemblée du désert? Notamment, qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'Assemblée du désert? Alors, celle de cette année, c'était son centenaire. Hein. Elle a été inaugurée, enfin, le musée du désert de Mialet, je vais y revenir, a été créé en 1910, mais il a été inauguré au cours de l'Assemblée du désert de 1911. Tiens, d'ailleurs, je vais vous passer des photos. Alors, sur ces photos, vous allez trouver... Il y a une légende, donc... vous allez trouver un tableau d'un lointain cousin à moi qui s'appelait Max Lennart, et qui a peint... un tableau très célèbre, hein, l'assemblée au désert, comme on disait, l'assemblée clandestine dans les rochers, etc. Et en dessous, vous allez trouver une photo de l'Assemblée du désert de 1911. Ensuite, je vous ai mis des photos des assemblées du désert telles que le soutiennent maintenant. Alors, c'est sous les châtaigniers. Et encore, je ne suis pas sûr qu'il n'y ait que des châtaigniers, mais on dit que c'est les châtaigniers, ça fait mieux. Et en tout cas, c'est sous les arbres. Il y a à peu près une quinzaine de milliers de personnes chaque année. Cette année, il y en avait plus à cause du centenaire. Mais... Alors, d'habitude, comme c'est dans les Cévennes, ça se passe très bien. Il fait beau, on est assis dehors, tout ça, c'est très bien.
Toujours en septembre ?
Toujours le premier dimanche de septembre.
La différence avec l'ancien désert, c'est que là, les policiers ouvrent la route aux voitures.
On n'est pas. Ils sont assez loin quand même. Et puis, il n'y a plus de sentinelles avec des fusils pour eux. Donc, photo de celle de 2011 sous la pluie. Et je vous ai mis comme. Là, il fallait quand même de la constance, il fallait résister, c'est parce qu'il pleuvait bien. Donc, je vous ai mis en dessous le mot résister, tel qu'il a été gravé. On le voit encore aujourd'hui dans la tour de Constance, dans la pierre, il a été gravé. Alors, on raconte que ça a été gravé par Marie Durand, qui a été enfermée pendant 38 ans, ou je ne sais pas combien. En fait, on sait pas trop, mais c'est typiquement. Le mot fort protestant, résister. Alors il y a un orchestre et une chorale sous la pluie. Et puis une photo de quelqu'un dans une chaire. Alors la chaire du désert, c'est. Je me demande comment elle ne s'est pas encore effondrée, mais.
C'est toujours la même.
Oui, à la voir, on dirait. C'est un peu terrifiant.
C'est toujours le même endroit depuis.
Oui, tout à fait. Alors, ça se tient sur la commune de Mialet, dans les Cévennes.
T'as
dit
comment ?
Mialet. Et il y a, alors, dans un lieu dit qui s'appelle le Mas Soubéran. Alors, quand on est du sud, comme moi, on dit le Mas, on ne dit pas un mât. C'est une ferme, c'est une ferme, oui, tout à fait. Alors, c'est une ferme, aujourd'hui, une ferme, il y a le propriétaire et sa famille, point. Mais à l'époque, une ferme, il y avait aussi les domestiques, les journaliers, les trucs, les troupeaux. Enfin, une ferme, c'était presque un village. Donc, le Mas Soubéran, c'était la maison natale à l'origine du chef camisard Pierre Laporte, qu'on appelait Roland dans la clandestinité. Alors on a créé ce musée du désert, mais le lieu servait déjà à des assemblées. Déjà au XIXe siècle, il y avait des cultes qui se tenaient là, des synodes de pasteurs, il y avait des réunions de l'armée du salut qui se tenaient là, etc.
Et c'était au combien de jours ?
Alors l'assemblée se déroule sur une journée, et c'est essentiellement le matin. L'après-midi, il y a des conférences.
Mais non.
Voilà, mais dans la pratique, l'essentiel, c'est le culte du matin. Je vous en ferai, si vous le souhaitez, enfin, je vous en ai apporté quelques extraits audio, c'est enregistré, si c'est pour voir un peu le genre d'ambiance qui peut y avoir, si ça vous dit. Alors, pourquoi cet endroit-là ? Parce que c'était la maison de Pierre Laporte. Mais il faut bien dire que cette région, ça a toujours été une terre de résistance et une terre de refuge. Et ça l'est toujours. Alors, actuellement, il y a un peu comme au Chambon-sur-Lignon, il y a des. C'est un peu un refuge pour des gens qui sont exclus, pour des sans-papiers, des gens en difficulté. Et puis, ça a été. C'est par exemple à cet endroit-là que Marc Bögner, enfin le pasteur Bögner, a lancé un appel en 1942. Donc c'était début septembre 1942, mais les rafles c'était en août ou c'était un mois ou deux avant, les rafles de juifs. Et donc, alors, Marc Bögner avait essayé de travailler avec les autorités françaises, les autorités de Vichy, pour en leur disant que c'était pas bien de persécuter les Juifs. Et après les rafles, bon, c'était, la cause était entendue, c'est plus qu'une seule chose à faire, c'est entrer dans la clandestinité. Il faut savoir que l'Assemblée du désert de septembre 1942, il y avait déjà des Juifs qui étaient venus, si j'ose dire, déguisés en protestants. Il y en a qui étaient habillés en éclaireurs, mais qui déclaraient qu'ils étaient protestants, qui avaient été amenés par car de Marseille ou de Nîmes, et qui ont été ensuite dispersés dans des familles aux alentours et qui ont été cachés comme ça jusqu'à la fin de la guerre. Et puis d'autre part, bon, Marc Buechner, alors il a fait un sermon, il était un peu prudent, il a fait un sermon avec la parabole du bon samaritain, en disant qu'il fallait avoir pour les juifs la même compassion que le bon samaritain. Donc ça c'était en public, avec la police qui écoutait. Mais après, il y avait un synode d'une soixantaine de pasteurs, et là ils sont... La tradition protestante, c'est que c'est Marc Buechner qui a lancé le truc. En fait, ils avaient déjà commencé à individuellement à prendre leur responsabilité. Alors pourquoi les protestants tiennent-ils tant à y aller? Parce que, somme toute, bon, on n'est plus persécuté, il n'y a plus tellement plus de raison d'aller se cacher. Et qui est-ce qui vient tous les ans? Alors c'est un mystère. Quand on demande aux gens qui sont là pourquoi vous êtes là, alors réponse, non, je ne viens rien chercher au désert, c'est incontournable. Ou alors, il y a une émotion intense à entendre l'assemblée chanter à l'unisson. Bon, moi, ça me fait penser de mon enfance de catholique. On parlait du pèlerinage de Chartres. J'imagine un peu le même genre d'ambiance. Hein, il n'y a pas de raison particulière. Quelque part, il faut être crétin pour aller marcher juste comme ça. Mais il y a une émotion qui se passe. Alors plus prosaïquement, s'agissant de protestants qui sont quand même très minoritaires, c'est un peu un moyen de se compter. Voilà, c'est ça. Donc parce qu'au culte, il faut bien dire qu'on n'est pas très nombreux le dimanche. Donc c'est une occasion de se retrouver, de dire ah, il y a tant que ça de protestants en France. Donc.
C'est vrai que passer de 25 à 15 000. on est
moins seul.
Il
n'y
a pas des petites assemblées régionales ou des choses comme ça au milieu?
Non. C'est les protestants, c'est pas des, c'est, enfin, c'est des individualistes. Hein, c'est des gens qui font des trucs. On avait prévu. Bah, c'était Loïc Bruno avait parlé de un jour faire un peu un exposé pour dire ce que c'est qu'un protestant, et ce qu'on appelle le sacerdoce universel, hein, c'est que chaque protestant, du moment qu'il a sa Bible à la main, il est un petit pape à lui tout seul, hein, donc il n'y a pas... je sais plus qui est-ce qui disait ça, c'était un
catholique, c'était un reproche.
C'était pas Voltaire ou un truc comme ça?
Boileau.
Ou Boileau.
C'est Boileau.
Ouais. Donc... Non, il n'y a pas trop d'assemblées. D'ailleurs, quand il y a des assemblées, les protestants n'y vont pas beaucoup. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe hein, c'est ça, les temps forts bibliques, il n'y a que des catholiques.
Personne n'évoque la notion de vieux-mémoire.
On n'est pas très sensible à ça.
C'est pas très protestant. Ouais.
Bon, c'est la maison d'un chef camisard, mais vous avez dû vous douter en fonction de la manière dont la révolte des camisards a été présentée tout à l'heure, le prophétisme, la révolte armée, c'est pas fidèle à l'évangile. Donc le protestantisme de l'époque, en dehors des hautes et basses Cévennes, a condamné la révolte des camisards. Protestants de Nîmes disaient, mais là-haut, c'est pas nous, hein, ils font n'importe quoi. Donc, lieu de mémoire, non, c'est le prétexte. Et du coup, si ça se faisait, je vais dire n'importe quoi, au fin fond de l'Auvergne, il n'y a jamais eu un seul protestant, ben, on irait au fin fond de l'Auvergne ce jour-là. Quoi. Parce que la maison de Roland, c'était la maison de Roland, quoi, voilà.
Il doit y avoir quand même la maison Breland un certain nombre de visiteurs.
Parce qu'il y a le musée.
Le musée est visité.
Le musée est très visité. Et c'est impressionnant d'ailleurs. Moi j'ai été vraiment ému par la visite du musée. Parce que ce sont des jeunes guides qui vous parlent de l'histoire du protestantisme et avec une foi qui est extraordinaire. Quand j'ai visité y aller, je suis allé immédiatement à l'époque voir la tour de Constance.
Mais bon, l'exemple que je prenais du fin fond d'Auvergne était mauvais, mais on aurait construit un musée du protestantisme au milieu d'une plaine où il ne s'est jamais rien passé et on ferait là un culte annuel. Ouais. Ça, il se passerait la même chose que Thomas Veillant.
Ouais, c'est pas un truc de protestant, ça, le.